parole du jour avec le Père Willem.
Jésus, Dieu qui s'approche.
Oui.
Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? C'est la question que nous posions en fin d'émission hier. À cette question, deux réponses ont été données. L'une plutôt occidentale, regarde vers le passé. Il fallait bien que Dieu lui-même se mêlât à la condition humaine, car c'était la seule façon de réparer la faute originelle du premier Adam. La rupture était tellement grave entre Dieu et l'homme qu'il n'y avait pas d'alternative. Seul Dieu pouvait, de l'intérieur, en s'incarnant précisément, refaire tout entier à neuf l'œuvre de son amour. L'autre réponse, plutôt orientale, mais pas exclusivement, est davantage tournée vers l'avenir de l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. L'incarnation inaugure en l'être humain une dignité radicalement neuve qui le place au-dessus des anges, comme le dit l'Écriture, et donc aussi de toutes les autres créatures des univers visibles et invisibles. Depuis Jésus, par lui, avec lui et en lui, l'homme est appelé, quel qu'il soit, et quelle que soit sa condition originale et originelle, à entrer dans la vie de Dieu, à participer à la vie trinitaire, et oui, à devenir Dieu. Sa destinée de l'ici-bas n'est pas niée, mais est à la fois exaucée et exaucée, relevée et accomplie dans tout ce qu'elle désire au plus intime d'elle-même. C'est cela que nous disons lorsque nous proclamons notre foi en Église, récitant ou chantant le symbole de Nicée-Constantinople, pour nous les hommes et pour notre salut descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, et pour nous les hommes et pour notre salut, nous osons dire en fidèle écho au prologue de l'Évangile de Jean que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. La foi en un certain charpentier galiléen nommé Jésus, mort et ressuscité à Jérusalem sous Ponce Pilate, c'est-à-dire dans une petite province de l'Empire gouvernée par un fonctionnaire de l'administration romaine, fut très efficace pour remettre les pieds sur terre. Oui, cette foi est étonnante dans ce contexte difficile. Cette foi est trop circonstanciée pour être de nature à nous laisser planer parmi les abstractions des sciences et des spiritualités. Le fait de la résurrection, surtout, est un principe de réalité assez sévère. Ceux qui y ont cru étaient des pécheurs, sachant réparer leurs mailles, des maçons capables de bâtir des cathédrales, des moines habiles à défricher et labourer des champs, autant dire des gens extrêmement pratiques et concrets. Croire au ressuscité, c'était pour eux aussi solide, aussi fort que planter du blé ou construire une basilique romane. Et plus solide encore, puisqu'il s'appuyait sur cette foi pour élever la voûte comme l'épi. Les évangiles de Pâques vont tous en ce sens. Ils prennent nos chimères à rebrousse-poil. Immanquablement, si nous devions nous imaginer un homme entré dans la gloire divine, nous nous les représenterions réalisant des choses extraordinaires, brillant mieux qu'une vedette à la cérémonie des Oscars, jonglant avec les étoiles, établissant une harmonie telle que le loup habite avec l'agneau et la panthère couchée avec le chevreau dans Isaïe 11. Or, il faut se rendre à l'évidence. Jésus ressuscité ne fait rien de tout cela. Hormis un filet de poisson plein à craquer et une ascension à propos de laquelle deux hommes en blanc refroidissent l'assistance à l'ensemble. Mais ben donc, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Il n'accomplit guère de miracles, Jésus. Ou, s'il en accomplit, ce sont des sortes de miracles à l'envers, dans le sens de la discrétion, de la réserve, du quelconque, je dirais presque du banal. Curieusement, après sa résurrection, non seulement il resplendit moins que lors de sa transfiguration au Tabor, mais il n'a même plus son charisme d'avant. Marie-Madeleine le prend d'abord pour un simple jardinier, les disciples d'Emmaüs pour le plus ignare des habitants de Jérusalem, puisqu'il ne sait rien sur les événements qui sont passés. Et les apôtres, ils le prennent pour une sorte de pêcheur à la retraite sur les bords du lac de Tibériade. Il a franchi le trépas, il est remonté des enfers, et tient malgré tout avec une pudeur inexplicable à se manifester comme un passant. Tout simplement, il fut là, au milieu d'eux. Les évangélistes insistent sur cette modestie, au milieu d'eux. Cela veut dire, avec une familiarité surprenante, plus surprenante que toute fantastique apparition, parce que dans cet ordre des choses, c'est à une fantastique apparition que l'on pouvait s'attendre. Et l'on s'y attend même à tel point, à cette apparition fantastique, qu'on ne lit plus ce qui est écrit. On se figure qu'il a traversé les murs, qu'il a prononcé des paroles ésotériques, qu'il s'est présenté comme un super passe-montagne, passe-moraille, auréolé de la lumière. Mais non, pas du tout. Il a simplement été là, simplement. Il leur a dit « La paix soit avec vous ». Ce qui équivaut à leur dire « Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? » Il a rompu le pain, mangé du poisson, grillé, mangé le repas. Il leur a commenté les Écritures, comme on raconte à table une aventure qui nous serait arrivée dernièrement. Et au lieu de leur faire une démonstration de force, en pliant par exemple une barre de fer par la puissance de la pensée, il leur a montré ses plaies, tout simplement. Dans les miracles les plus ordinaires, les plaies disparaissent. Ici, elles restent éternellement. Après tout, il y a mieux que de faire des choses extraordinaires, c'est d'illuminer l'ordinaire de l'intérieur. Et Jésus ne saurait faire autrement s'il est bien le Verbe créateur et rédempteur, le même qui crée, le même qui sauve, et le même qui sauve ce qu'il a créé, sans quoi il ne sauverait rien. Pas de table rase ici, mais une table qui assume le fruit de la terre et le travail des hommes. L'ordinaire, c'est lui qui l'a inventé, comme une chose que personne n'avait faite avant lui. Comment le dénierait-il ? Il le rachète donc, il le rehausse, il en relève la fantaisie. Thank you.
Thank you.